Bonjour à toutes et à tous, des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game, comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine Guillaume Mathias, expert en neurosciences et en sciences cognitives appliquées. C'est vraiment l'expert des processus décisionnels. C'est lui qui m'a formée en 2021 sur les connaissances en neurosciences et j'avais envie de lui poser toutes mes questions existentielles liées à notre cerveau et à notre capacité de prendre nos propres décisions consciemment ici sur mon podcast. Cet échange est passionnant et je vous conseille de prendre de quoi noter parce qu'on vous donne beaucoup de valeur dans cet épisode. Concrètement, on aborde ensemble différents sujets. D'abord, est-ce que nous prenons nos décisions par nous-mêmes? De quelle manière nous sommes influencés? Sommes-nous dépendants des shoots de dopamine que les réseaux sociaux et d'autres loisirs nous offrent? Guillaume nous fait l'honneur de répondre à ces questions complexes mais vitales pour mieux se comprendre dans un premier temps et puis d'identifier nos fonctionnements personnels. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Guillaume Mathias. Bonjour Guillaume.
Bonjour Marielle.
Bienvenue sur Muffin Game.
Eh ben, merci à toi de m'accueillir.
Je suis absolument ravie de te recevoir au micro de mon podcast. C'est un sujet très, très intéressant, le processus décisionnel. Je suis très heureuse de recevoir un expert comme toi en neurosciences et puis en sciences cognitives appliquées. C'est vraiment une vraie chance pour nous, pour nos auditrices. Donc, merci d'être là.
Ben, merci à toi, tu me mets la barre super haute dans la présentation. Je vais essayer de tenir la promesse en tout cas. C'est un vrai plaisir.
Je n'ai dit que la vérité.
En tout cas, je te confirme, c'est un sujet absolument passionnant. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dedans et j'ai la sensation d'avoir juste à peine effleuré la surface. Donc oui, je te confirme en tout cas, c'est vraiment un sujet passionnant.
Je vais te poser la question iconique de ce podcast parce qu'en fait, on a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait au lieu de dire qui on est. Est-ce que tu peux te présenter en nous disant qui tu es, Guillaume ?
Qui je suis ? Je suis un adage qu'on m'a donné quand j'avais 14 ans. On m'a donné un adage où on m'a dit « Quand deux chemins se présentent à toi, prends toujours celui que tu connais pas. » Et à 14 ans, peut-être encore maintenant, je suis assez extrême. Donc, du moment qu'il y a un sujet que je connais pas, je l'explore. Mmh. Et s'il y a bien un endroit, une zone, une terra incognita par excellence, qu'on ne connaissait pas du tout à l'époque, et qu'on découvre petit à petit, c'est pas des nouveaux continents, c'est pas des nouveaux territoires extérieurs, mais bel et bien ce qui se passe entre nos deux oreilles. Et donc moi, ce que je fais, c'est d'aller explorer ce qui se passe entre nos deux oreilles. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Comment on perçoit le monde? Comment notre cerveau traite ça et comment on déclenche une réponse d'adaptation en fait à nos environnements. Et bien évidemment, on peut pas déconnecter la tête du corps. Enfin, en tout cas, Louis XVI a essayé et nous a dit il faut pas. et donc du coup, voilà ce que je fais. J'aime comprendre comment on s'adapte à des environnements. C'est quelque chose qui me fascine et aujourd'hui, je le fais. Donc il y a énormément de travail d'analyse, de recherche, de compréhension de ces mécanismes-là. Et après, mon quotidien est majoritairement constitué à transmettre ces éléments de connaissance, de compréhension, pour que les gens puissent à leur tour faire quelque chose avec ça. Donc majoritairement à travers de la formation et aussi à travers, comme maintenant, des podcasts, des conférences. C'est des moments, pour moi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est des moments que j'adore par-dessus tout. Donc voilà ce que je fais.
Fabuleux. Est-ce qu'on est à l'origine de nos décisions ?
Ah, tu vas dans le dur, dans le sujet. Est-ce qu'on est à l'origine de décision? Alors, je vais être joueur, il faudrait qu'on arrive à définir on. C'est-à-dire que derrière le on va dire une somme de je non défini. Je. Est-ce que je suis à l'origine de mes décisions? Mais c'est qui je? Qui est ce je? Qu'est-ce que c'est qu'être? Et qu'est-ce qui dans être me permet de définir un je finalement? Parce que on est, oui, ça, c'est, il suffit juste de rentrer en autocontact pour s'apercevoir que oui, on est. Mais qu'est-ce qui va définir le jeu ? Et pour habitude de dire que le jeu, c'est la conscience d'être, c'est le fait d'avoir conscience. On existe parce qu'on a conscience d'être. Mais le jeu s'exprime derrière j'existe. Et exister, c'est un choix. Là, on a quelque part le choix de choisir comment on veut exister. Par contre, est-ce qu'on est à l'origine de nos décisions ? L'origine même, c'est pas le jeu qui décide, c'est notre cerveau. Et notre cerveau n'est pas le jeu.
Oui, c'est la question que j'allais te poser. Parce que si on pense, alors on est.
Ça ressemble à Descartes, ça. Je pense, je doute, donc je pense, donc je suis. Oui, mais le, encore une fois de plus, c'est le jeu. Est-ce que le conducteur est la voiture ?
Non.
Eh bien, c'est la même chose. Le jeu, c'est celui qui va essayer de piloter le cerveau. Alors là où ça devient compliqué, c'est que, alors, pour le coup, le conducteur est dans la voiture, mais il est fait de façon très différente de la voiture. Eh bien, dans notre cerveau, le jeu est dans le cerveau, mais de même nature. C'est là que c'est là qu'on, souvent, on se perd un peu. J'aime bien alors c'est assez schématique, même si ça répond pas mal à l'expérimentation scientifique. Le jeu, le pilote du cerveau, il est dans la partie orbitofrontale. C'est une zone de notre cerveau qui est juste au-dessus des sourcils. C'est une espèce de bandeau qui est au-dessus de nos sourcils. Et c'est lui qui va nous permettre de faire émerger la conscience d'être, même si on n'arrive pas encore complètement à comprendre la mécanique profonde. Mais on sait que c'est cette zone-là qui nous permet de faire émerger la conscience d'être à l'aide de par rebond avec différentes zones. Et j'aime bien le schématiser en disant le jeu, c'est juste cette petite zone-là. Comme le conducteur d'une voiture, c'est juste celui qui est assis à l'avant, à gauche, en tout cas en France, à l'avant, à gauche dans notre voiture. C'est juste ça, le pilote. Et pourtant, quand ça se déplace, c'est le tout qui se déplace en même temps. Eh bien, le jeu, c'est juste la petite partie orbitofrontale qui essaye de piloter l'ensemble. Le truc, c'est que nos décisions, l'origine de nos décisions, se situe pas dans cette zone-là du cerveau. Elle se situe dans des structures plus profondes, qu'on appelle les structures sous-corticales. Et c'est là qu'émerge l'origine même de nos décisions. Et ensuite, la partie orbitofrontale, le jeu, essaye de tenir le volant comme il peut et d'aller un coup à gauche, un coup à droite. Mais on le sait très bien, si la voiture va plein gaz à 120 km/h dans un virage en épingle, on risque la sortie de route, même si le conducteur a toute l'intention du monde à essayer de braquer le volant au bon moment. Eh, ça va être compliqué de tenir la route. Pourtant, l'intention du conducteur était bien de rester sur la route.
C'est surtout qu'il faut avoir le permis, il faut apprendre à conduire. Ça s'apprend.
Et c'est un peu le drame. C'est qu'on ne nous l'a pas appris à l'école. Alors déjà, non pas qu'il y avait une négligence version « on s'en fout », mais c'est que ça fait pas très très longtemps qu'on arrive à vraiment comprendre comment fonctionnent ces mécanismes-là. Et puis entre le moment où on le comprend et le moment où il va falloir moi ça fait 20 ans que je bosse dedans aujourd'hui, alors j'ai la chance d'avoir deux petites filles, hein, elles ont 5 ans et 8 ans, c'est mes deux princesses mais aussi mes deux rats de laboratoire, j'essaye petit à petit de leur amener des concepts parce que le fonctionnement du cerveau humain c'est quand même quelque chose d'hyper complexe et comment on rend ça accessible aux enfants en fait. Donc avant de réussir à le pouvoir le généraliser sur toute une société, il faut déjà réussir à le comprendre soi-même, pour commencer, et puis après à trouver la bonne façon de l'amener aux enfants. Et je pense que le jour où effectivement on arrivera à faire ça, et j'espère que ça va être vraiment dans un avenir proche, en tout cas nous on y bosse dur, on pourra leur apprendre à conduire. Et plus tôt on leur apprendra à conduire, pour une fois, mieux ça sera. On essaye en tout cas, on y travaille.
Oui, d'accord, c'est important. Moi, j'ai une question qui était un petit peu une question existentielle, donc je te la pose parce que je me suis dit tiens, c'est étrange, je vais la poser à Guillaume. Je me suis posé la question pourquoi le pessimisme, était si séduisant. C'est-à-dire que on retient plus facilement une mauvaise nouvelle et on la nourrit volontairement, une mauvaise expérience, un mauvais vécu, plutôt que plusieurs annonces positives qui pourraient paradoxalement faire le poids. Tu vois, vis-à-vis d'une seule mauvaise nouvelle, on retient une seule mauvaise nouvelle, même si on en a eu 10 bonnes dans la journée.
Alors, il peut y avoir plusieurs réponses à ça. Il va falloir juste différencier les contextes. Est-ce que tu me parles des mauvaises nouvelles qui touchent quelqu'un d'autre et pas toi ?
Non, là, on parle de soi.
De soi. Alors, il y a deux raisons qui peuvent expliquer ça. La première, en fait, pour pouvoir vraiment répondre à ça, je suis obligé d'expliquer en quelques mots un principe de fond. C'est qu'on n'agit pas par raison, on agit par rapport à des états de tension. Le jeu, le pilote, essaye d'agir par raison. Mais la raison va juste essayer de guider des états de tension profonds en nous. Okay. Et ça, ces états de tension, en réalité, c'est vraiment là l'origine de nos décisions. Hein. C'est des états de tension qui naissent en nous entre 40 millisecondes et 230 millisecondes. C'est ce qu'on appelle le premier temps décisionnel. Notre cerveau prend à peu près 35 000 décisions en moyenne par jour en créant en nous des états de tension. C'est le fameux carré de chocolat. Oui, tu le perçois sur le bord de la table et il faut à peu près 120-130 millisecondes pour qu'entre le moment où tu as perçu le carré de chocolat et le moment où ton cerveau va prendre une première décision qui va être du chocolat, vas-y, croque-le. Il va créer en réalité un état de tension qui t'amène à vouloir croquer dedans. C'est le premier temps décisionnel. Et ensuite, tu vas le conscientiser. Et c'est là que le jeu être, rentre en action. Et là, par exemple, tu vas trouver ton carré de chocolat et tu vas te dire « Oh, du chocolat, cool. Oh non, c'est pas raisonnable. » Le « Oh non, c'est la raison. » Tu vois ? Mais non, non à qui, non à quoi ? En fait, on se dit non, non pas à soi-même, mais à notre cerveau. On lui dit non.
C'est vrai.
On ne croque pas ce carré de chocolat. Et donc, ça va du coup créer en nous un état aversif. Un état, oh, c'est vrai que c'est mieux de ne pas le croquer, mais je préférerais le croquer quand même. Donc, tu vois, on va basculer d'un état de tension à un autre. Et en fait, notre attention focalise plus facilement sur les états de tension aversifs, ce qui nous est désagréable. C'est ce qui va être plus facilement porté à notre conscience et plus facilement focaliser le jeu. Alors que des états de tension qui nous sont agréables, qu'on appelle les états de tension de satisfaction, n'arriveront qu'après. S'il y a des états de tension aversifs très forts, très présents, ils gagneront toujours la bataille pour être portés à notre conscience. Donc ça, c'est la première chose qui va faire que c'est plus facile finalement, de focaliser notre attention ou de rester dans une démarche plutôt pessimiste. Ça veut dire que ça ne nous a pas obligés à surmonter ces états de tension aversifs. Ça, c'est la première explication possible.
Je te coupe.
La deuxième... Ouais, pardon. Ouais,
est-ce que ça veut dire que si on écoute cet état de tension, en tout cas qu'on se laisse tenter, est-ce que c'est parce qu'on sait au fond de nous qu'après, il y a ce moment de bonheur, de plaisir ou...
Oui.
On est d'accord.
Oui, mais le problème, c'est qu'il est différé dans le temps. Or, le temps va diluer les états de tension. Par exemple, c'est ce qui explique la procrastination. Soit vraiment, je dois faire quelque chose qui va pouvoir... Là, maintenant, là, faut que je sorte les poubelles, là ça me crée un état de tension qui est aversif.
Ouais.
Et il n'est pas dilué dans le temps, il est là, il est maintenant, il est imminent. Ouais, non, je ferai ça demain matin. Ça sera... Finalement, j'ai besoin de la même mise en mouvement, c'est la même action. Mais comme je le reporte à demain, l'état de tension aversif est dilué par le temps.
Ok, je comprends.
Voilà. Donc le temps va diluer les états de tension, qu'ils soient de satisfaction ou qu'ils soient aversifs.
Ok. Pardon, je t'ai coupé du coup.
Non, mais je t'en prie. Donc, sur ces états de tension, si on reprend cette mécanique-là, on va... Si on reprend l'exemple de notre pessimiste, soit il va devoir faire quelque chose qui va être aversif là, maintenant, avec une très forte aversivité, soit il va décider de ne pas le faire pour une satisfaction future. Mais la satisfaction future va être diluée par le temps. Donc il y a intérêt à ce que cette satisfaction future crée des états de tension de satisfaction vraiment très forts. Pour que même dilué par le temps, ces états de tension, de satisfaction, restent malgré tout plus forts et nous permettent de surmonter l'état aversif que l'on est prêt à surmonter maintenant.
Ok, je vois. Mais du coup, je me dis, parce que quelque part, c'est pas qu'on aime être malheureux, mais c'est comme si ça demandait plus d'efforts d'être plus heureux.
Alors, ça amène à la deuxième option, qui est généralement... la plus commune qu'on va croiser. On revient au je. Qu'est-ce que c'est que je ? Pour savoir qui je suis, j'ai besoin de la reconnaissance des autres. Sans la reconnaissance des autres, je n'ai pas moyen de savoir qui je suis. Ce qui veut dire que quand je vais faire quelque chose, je vais on appelle ça se revendiquer. Faire, c'est se revendiquer dans une posture. Et en fonction de la reconnaissance des autres, ça va produire en nous un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine. Et on a besoin de cette sérotonine. c'est cette sérotonine-là qui nous donne à la fois la nécessité d'être, qui va, si elle est suffisamment importante, suffisamment longtemps, va nous amener à la notion de bonheur. Si elle est insuffisante trop longtemps, c'est elle qui va nous amener à la dépression. Mais attention, je ne produis de la sérotonine que quand on me reconnaît dans ce que je revendique être.
Donc il faut faire.
Donc il faut faire, mais il faut savoir quoi faire. Trouver une façon singulière de faire pour que cette façon-là soit l'expression de moi. Et c'est beaucoup plus difficile de trouver une expression de soi heureuse qui va amener de la reconnaissance d'autrui que d'exprimer son malheur qui va du coup enclencher l'empathie des autres, qui en enclenchant l'empathie reconnaît ce qu'on est en train de revendiquer, c'est d'être malheureux ou malheureuse. Et c'est pas tant ce que je revendique qui est important, c'est qu'on me reconnaisse. Et parce qu'on me reconnaît dans mon malheur, du coup, je sais qui je suis.
Ah, c'est dingue.
Et il manquerait plus qu'on aille mieux. Et si jamais on allait mieux, on n'a plus rien à revendiquer. Et si on n'a plus rien à revendiquer, on ne sait plus qui on est. C'est le piège derrière. Et donc, je suis d'accord avec toi. C'est beaucoup plus facile de revendiquer. Non, mais en ce moment, ça va pas bien. Tu comprends. Enfin, regarde la situation économique. Regarde la situation sociale. Regarde la situation du monde. Je veux dire, l'écologie, ça part à volo. Les forêts brûlent. Là encore, en Californie, il y a des milliers d'hectares qu'on cramait. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a. Et tout le monde se reconnaît là-dedans. Donc, c'est facile de se revendiquer de cette manière-là et d'avoir la reconnaissance des autres. Par contre, c'est beaucoup plus difficile, et donc du coup, ça nous permet d'être, hein, sachant que c'est quand même un neurotransmetteur qui est en tension, et si jamais j'ai pas ça, je risque de partir en dépression, etc. Donc, peu importe ce que je revendique, j'ai besoin de cette reconnaissance. Mais par contre, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une stratégie de reconnaissance qui va dire, oui, effectivement, il y a tout ça, mais dans tout ce brouillard, si tu regardes bien, il y a des choses qui sont fantastiques. Et dans ce qui est fantastique, moi, j'ai réussi à faire ça, et puis je suis allé chercher ça, et puis j'adore aller chercher ça. Et on te reconnaîtra pas directement là-dedans. On va te dire, t'es sûr? C'est toi qui es optimiste, c'est quoi qui est... Et là, t'as toujours pas ta reconnaissance. Ce qui veut dire que ça va te demander un effort de revendication, un effort du faire encore plus important. Pour que finalement, à un moment, les gens disent, waouh, ah ouais, non, effectivement, t'as raison. Mais ça va demander un effort beaucoup plus important. Donc, c'est ce dont dépend l'acte de reconnaissance.
Mais du coup, vient la question de... Finalement, c'est pas inconsciemment, bien sûr. C'est pas conscient, mais inconsciemment, quelque part, on cherche pas à être si heureux que ça.
Et tu peux être très heureux en te plaignant.
C'est ça.
Tu peux être très, très heureux en te plaignant. Le bonheur, alors c'est très moléculaire, très organique, mais la notion de bonheur, c'est une certaine concentration de sérotonine dans l'organisme, point barre, peu importe comment tu l'obtiens. Certains sont très heureux en torturant les autres. Ça, c'est mon côté sadique.
Non, mais c'est vrai, il y en a plein, bien sûr.
Et ils sont très heureux comme ça. Pourquoi ? Parce que ils se revendiquent dans le fait de faire souffrir les autres. Et ils sont reconnus comme des bourreaux. Comme ils sont reconnus, ils produisent de la sérotonine. Tu produis mécaniquement de la sérotonine, le taux de sérotonine augmente dans ton organisme. La conséquence de la production de sérotonine par ton organisme amène un ressenti physiologique qu'on appelle le bonheur.
Justement, du coup, est-ce que nos comportements reflètent vraiment qui nous sommes ?
Alors, tu m'amènes sur un autre sujet, enfin, qui répond directement, mais c'est d'apprendre à faire la différence entre l'individualité d'une personne et ses personnalités.
Ouais, bien sûr. On n'est pas que on n'est pas que fort ou que faible ou vulnérable. On est tout ça, bien sûr.
Exactement. C'est-à-dire que on est plusieurs personnalités qui sont en réalité différentes stratégies de revendication de qui on est en fonction des environnements où on est, pour aller chercher les différents facteurs de reconnaissance en fonction de là où on est, et donc d'essayer de maximiser nos chances de produire de la sérotonine par l'acte de reconnaissance. Donc ça, c'est les différentes personnalités. Est-ce que notre personnalité nous définit pleinement ? Non, elle définit une part seulement de nous-mêmes. En revanche, il y a l'individualité. L'individualité, c'est la part indivisible de nous-mêmes. Les personnalités sont les divisions, différentes formes de personnes que l'on va incarner. Mais l'individualité, c'est cette part indivisible. Nous sommes notre individualité, mais nous ne sommes pas une seule et unique part de nos personnalités. C'est vraiment, il y a une segmentation très forte à faire entre elles.
Mais du coup, pour revenir à l'exemple que tu citais tout à l'heure, quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un d'autre volontairement, hein, on est bien d'accord dans la volonté de nuire, est-ce que du coup, ça fait de lui ou de elle quelqu'un de mauvais ?
Pour lui, peut-être pas, En fait, ça dépend la façon dont
parce que si
dont
ça le rend heureux, représente
son action.
Tu vois, si on continue dans l'exemple précédent, il y en a qui sont très heureux dans le fait de faire souffrir quelqu'un, par exemple. Du coup, je me pose la question, je me dis, mais peut-être que lui ou elle est très heureux de ça. Alors, on sait que celui qui le subit, non, mais est-ce que du coup, ça fait de cette personne quelqu'un de mauvais? Moi, je me pose toute cette question de la bonté humaine, tu vois, au final.
On est ce que la personne se représente. On est toujours le con de quelqu'un.
Ça, c'est vrai.
Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de con? C'est pas faux. Mais, c'est... Donc, si tu veux, est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on est mauvais? Ça ne dépendra que de la représentation que l'on va se faire de la personne. Hier soir, j'ai terminé une série qui est assez intéressante. Elle s'appelle Bodies. Et il y a un... Faut que je fasse gaffe de pas spoiler parce que si jamais on a des auditeurs, des auditrices qui l'ont pas encore vu,
parce j'ai que
pas
je vais aller le voir. Je vais forcément aller le voir du coup.
Mais à un moment donné, il y a un grand commandeur. Je vais essayer de pas spoiler le truc. Il y a un grand commandeur qui organise totalement. Donc on est dans une dictature totale qui organise totalement la gestion de la société pour que les gens sachent qu'ils sont aimés. Parce que l'amour doit être au-dessus de tout.
Ok, très intéressant.
Et donc, ce commandeur, quelque part, se considère comme étant une bonne personne. Quelqu'un qui va prôner l'amour au-dessus de tout va être une bonne personne. Mais il sera une bonne personne vis-à-vis de lui-même. Il sera une bonne personne vis-à-vis de, vu qu'on est en dictature, plutôt de ses fanatiques. Mais il sera un terroriste pour d'autres. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne personne? Alors, moi, j'ai une définition très neurobio d'une bonne personne. Une bonne personne, pour moi, c'est une personne qui amènera plus de tension, de satisfaction chez un individu que de tension, d'aversion.
C'est exactement la réponse que j'allais te faire en disant bah, une bonne personne, pour moi, c'est quelqu'un qui... Tout simplement.
Pas que. Parfois, pour une moyenne globale de tension, de satisfaction, il faut passer par des états de tension aversifs, des choses désagréables. Dire à toujours à quelqu'un t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es la plus forte, t'es la meilleure, t'es la ceci, t'es la cela, qui du coup va la conforter dans une stratégie d'adaptation à un environnement qui ne lui correspond pas, et on le voit bien, et qui est la cause de tous ses malheurs, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir faire mal pour que la personne ensuite, dans une moyenne globale, puisse aller bien. C'est très difficile de poser une valeur absolue en fait sur ces concepts. C'est toujours des valeurs relatives. Après, derrière, il y a aussi une autre notion qui est importante. C'est l'intention qui nous anime. Quelle tension m'anime? Est-ce que mon intention est de vouloir rendre les gens heureux? Est-ce que mon intention est de vouloir amener un maximum de potentialité de satisfaction, de tension de satisfaction à un individu? Mais peut-être que je me suis loupé. Peut-être que je suis passé à côté. Peut-être que j'ai pas su faire. Peut-être que je m'y suis mal pris. Peut-être que... Et parce que le résultat est négatif, ça fait quelqu'un de mauvais? Est-ce que c'est le résultat que je dois regarder pour savoir qui je suis ou est-ce que c'est l'intention de ce que je fais qui va me définir? Plutôt tendance à aller chercher la deuxième option.
Moi aussi, je suis plus dans l'intention parce que si on prend un exemple de, tu vois, quelqu'un qui ne passe pas à l'action mais qui a envie de toucher des enfants, par exemple, pour moi déjà, même s'il n'est pas passé à l'acte, c'est pas quelqu'un de bien. Parce qu'il a cette intention-là.
Ouais, complètement.
Donc on voit bien que ça ne dépend pas que des actes, mais que tout part de l'intention.
Exactement. Et plus que le résultat, que l'intention ou la qualité de mise en mouvement. Et ça, pour moi, c'est un peu un drame dans notre société, c'est qu'on nous a conditionnés à nous définir en fonction de nos résultats.
Ouais.
Je donne un exemple simple. On a bouffé 20 ans de conditionnement là-dedans. Tu prends l'école.
Bah, l'école, le système de notes, voilà.
C'est ça. Bonjour Dupont. Mmh. Eh ben voilà, hein, on est en cours d'anglais. Je te rends ta copie. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Dupont? 3. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Dupont? Il va falloir t'y mettre à un moment donné. Hein. Et là, tu prends tout le poids de Dupont est un mauvais élève, je suis pas doué, je suis pas intelligent, je suis nul, je sais pas apprendre, machin. Et puis, t'as Brian. Ah, Brian. Félicitations, Brian. Encore un 19. Félicitations, Brian. Et sous-entendu, Brian est un bon élève, etc., etc. Ouais, mais on oublie un petit truc. C'est que Brian, il est né... d'un père anglais et d'une mère française. Et que Brian, clairement, ses cours d'anglais, il en a rien à faire. Il est natif anglais. Il parle anglais couramment, c'est sa langue maternelle. La vraie question, c'est comment ça se fait qu'il a pas eu 20, si tu veux, quelque part. c'est rien de compliqué dans l'interro. Par contre, Dupont, lui, c'est le cinquième d'une, cinquième enfant d'une grande famille qui vit dans 40 mètres carrés, et donc bah c'est pas évident. Et Dupont, bah, n'empêche qu'il aide ses parents à s'occuper des petits frères et des petites sœurs pendant toute la soirée. Et quand il arrive à la lampe torche à essayer de bosser à 23h pour essayer d'apprendre ses cours d'anglais, et il le fait, n'empêche qu'il est fracassé, il est mort de fatigue, et il s'endort sur ses cours. Il arrive le lendemain en cours, il essaye de faire tout ce qu'il peut pour essayer de rattraper son truc, mais clairement, il n'a pas la possibilité de le faire. Son intention est excellente. Pour moi, c'est un excellent élève.
Ouais, tout à fait d'accord.
Et on nous a conditionné à se définir par rapport au résultat, pas par rapport à l'intention ou à la qualité de l'action.
Et alors,
changeant ce prisme-là, ça change qui on est.
Et alors, quand il y a l'intention et l'acte,
T'as intention, acte et résultat. C'est trois choses différentes. T'as l'intention, t'as la qualité de l'action, l'acte, donc comment l'acte est mené, et après, il y a toutes les variables de l'environnement que tu ne peux pas du tout maîtriser, qui vont rentrer dans la définition du résultat. Par exemple, t'as Simon, force commerciale depuis 20 ans dans le groupe je sais pas quoi, l'art capillaire, les shampoings pour chauve, savoir que je suis chauve, et qui se pointe dans un salon de coiffure, et je sais plus comment j'ai dit, Simon, il arrive, il a une intention réelle de trouver le bon produit pour ce salon de coiffure, vraiment le produit qui leur correspondra, et peut-être qu'effectivement il l'a en portefeuille, il passe dans l'acte, il fait un déroulé commercial exemplaire. Oui, mais la personne qui l'a reçu dans le salon de coiffure s'est pris la tronche une heure avant avec son mari ou avec sa femme, est vraiment pas enclin à recevoir la moindre information, et finalement, à revoir emballer Simon dans ses cordes, ciao, bye, repassez plus tard. L'intention était bonne, la qualité de l'action était bonne, mais le résultat ne dépendait pas de lui. Est-ce que parce qu'il s'est fait renvoyer dans les cordes et qu'il repart, s'il regarde que son résultat pour définir qui il est, il va se considérer comme un mauvais commercial? En réalité, c'est pas le cas. Le résultat dépend de l'intention, de la qualité de l'action et des facteurs exogènes. Les facteurs exogènes, tu les maîtrises pas.
C'est très intéressant ce que tu dis parce que on s'arrête très très souvent sur le résultat et c'est ce qui du coup crée des perceptions erronées voire illusoires de nous-mêmes. Il y a une fonction assez identitaire finalement par rapport au résultat concret, alors que même si l'intention et l'action ont été d'une grande qualité. Je pense à, tu vois, je peux pas m'empêcher de penser à la dichotomie du contrôle dans la philosophie stoïcienne où il est constamment recommandé d'arrêter de lutter ou de vouloir contrôler ce qu'on ne maîtrise pas et qu'effectivement là dans le résultat il y a ce facteur là.
Ça c'est, ne peut pas avoir. En fait, on s'adapte à des environnements. Il y a la façon toi que tu peux maîtriser de l'adaptation, mais il y a l'environnement qui arrive avec tous ces facteurs et eux tu les maîtrises pas. On ne peut pas maîtriser ce qui nous arrive. On peut essayer de maîtriser notre façon d'y réagir.
Carrément.
Mais ça ne veut pas dire que ça nous amènera au résultat attendu en permanence. Sous-entendu, il y aurait un résultat de référence qui fait que oui, c'est bien, c'est on vit bien normé. Oui, avoir 20, c'est ce qui fait un bon élève. 15, correct. 10, moyen. 5, mauvais. Tiens, va faire prépa médecine. On verra si le mot 20, c'est toujours bon élève, ou si 10, c'est toujours mauvais élève, moyen élève.
C'est clair.
Non, complètement. C'est comme s'il y avait une espèce de norme. Si tu veux te conformer à une norme, bah surtout ne sois pas toi-même. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, ça me vient comme ça, là. Mais qu'est-ce que c'est que vendre son âme au diable? C'est de sacrifier l'intention ou la qualité de l'action au profit de son résultat. Et donc, ça veut dire, tant pis sur mes intentions, tant pis sur la façon dont je le fais, mais parce que ça va, je vais le faire, parce que ça me permet d'atteindre le résultat attendu ou espéré. Ça s'appelle vendre son âme au diable. Pourquoi on vend notre âme au diable? Parce qu'à la seconde où j'arrête de faire selon mes intentions, je ne suis plus en train d'avoir une reconnaissance sur qui je suis par rapport à ma qualité d'action, mais par rapport à mon résultat. Mais vu que c'est pas ma qualité d'action qu'on me reconnaisse ou pas, et ben du coup, je ne sais plus qui je suis.
Trop intéressant. Je n'avais pas vu comme ça cette notion de donner son âme au diable.
C'est un prisme intéressant, je trouve.
Ah, mais très intéressant, bien sûr, c'est très parlant. Dites-nous en commentaire si ça vous parle. Pourquoi nous n'arrivons pas toujours, je dis bien pas toujours, à changer alors que nous le voulons? Parce qu'il y a un peu cet adage de « quand on veut, on peut ». Mais tu vois, est-ce que ce « quand on veut, on peut », c'est pas un peu un mythe?
Il n'y a rien de plus faux que « quand on veut, on peut ». Et on l'explique super bien en neurobio. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas des acteurs socio-économiques de raison, on est des acteurs socio-économiques de tension. Ce sont des états de tension qui nous mettent en mouvement, qu'on va essayer tant bien que mal de piloter avec notre raison. Il faut savoir que Avant que ce soit ça déjà. On prend 35 000, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais on prend 35 000 décisions en moyenne par jour. Quand je dis « on », en l'occurrence, c'est notre cerveau qui prend 35 000 décisions en moyenne par jour.
Oui, parce que le jeu, c'est beaucoup moins.
C'est vachement moins, justement. Et donc, notre cerveau va prendre des décisions en créant en nous des états de tension. Donc, c'est sa façon à lui de nous amener à faire certaines choses ou d'autres. Et sur ces 35 000 décisions en moyenne par jour, il y en a 99,74% d'entre elles qui n'atteignent pas le champ de la conscience, qui n'atteignent pas le jeu. Donc, ça veut dire que déjà, on a 99,74% de nos décisions qui échappent complètement à notre raison, qui ne sont pilotées que par des états de tension, de base. Ensuite, il nous reste 0,26% des décisions qui, elles, vont être portées à notre conscience, qui engagent le jeu, donc qui peuvent engager la raison. Mais, depuis mars 2019, si on met des sujets sous IRMF, donc c'est des scanners qui nous permettent de pouvoir observer l'activité cérébrale en live, qu'on les soumet à un contexte décisionnel, eh bien par simple observation de l'activation cérébrale, on est capable de pouvoir prédire la décision qu'ils vont prendre jusqu'à 11 secondes avant que les sujets eux-mêmes en aient conscience. Donc ça veut dire quoi? Bon, déjà, il y a une prouesse technologique derrière, mais surtout, ça veut dire que 100% des décisions sont d'abord prises par notre cerveau en créant des états de tension, et que dans 0,26% des cas, notre cerveau daigne bien vouloir nous en informer. Au moment où on en informait, on conscientise, on rationalise le truc, et on a l'impression, par exemple le cas de chocolat, j'ai l'impression qu'après avoir eu les états de tension qui ont été déclenchés en moi, qui me donnent envie de le manger, au moment où j'en ai conscience, je me dis « Oh, du chocolat !» Et c'est à ce moment-là que j'ai l'impression de prendre la décision de le croquer ou pas. Mais ça, c'est le deuxième temps décisionnel. Quand les deux temps décisionnels s'alignent, ça donne quelque chose genre « Oh ouais, cool mmh. Ouais, en plus, c'est hyper bon. Tu me préférais celui-là. » Et là, il n'y a pas de problème. Le deuxième temps décisionnel s'aligne avec le premier. Tout est fluide. Maintenant, quand il y a une opposition entre les deux, mon cerveau a décidé de le croquer. Ça lui a pris 120 millisecondes. Donc, ça a créé les états de tension en moi qui m'amènent à me mettre en mouvement pour venir croquer dans ce cas à chocolat. Ensuite, c'est porté à ma conscience. Oh, du chocolat. Non, c'est pas raisonnable. Non, non à qui, non à quoi? On est en train de dire non à notre cerveau. On est en train de dire non aux états de tension que lui a déjà déclenchés. Mais pour pouvoir résister à ces états de tension, on a des voies neuronales bien spécifiques qui partent de la partie orbitofrontale, c'est la partie avant du cerveau dont je vous ai parlé au début de notre échange. C'est des voies neuronales qui vont ensuite projeter le centre de décision de notre cerveau. Et quand ces voies neuronales, on les active, elles peuvent désactiver les zones projetées, c'est-à-dire qu'elles peuvent aller à l'encontre de la décision initiale. Le problème, c'est qu'il faut qu'elles soient suffisamment nombreuses. Si la décision initiale de notre cerveau a créé des états de tension très puissants, eh bien, les voies neuronales, on appelle ça des voies de rétrocontrôle, les voies neuronales qui peuvent essayer d'aller à l'encontre de la décision initiale, même si elles sont pleinement toutes activées par notre volonté, elles ne sont pas assez nombreuses pour désactiver l'état de tension. Et c'est notre cerveau qui remportera inévitablement la mise en mouvement.
J'ai une question qui me vient. Est-ce que ça se joue à l'endroit où on parlait tout à l'heure du faire, c'est-à-dire à force de s'entraîner, où tu disais, moi j'ai un adage, c'est d'aller expérimenter ou aller dans des chemins que je ne connais pas. Justement, c'est juste cet acte-là de prendre des chemins que tu ne connais pas, créer du coup des nouveaux chemins neuronaux qui, à force de les emprunter, les nourrissent. Et c'est ça qui crée de la myéline, en fait, qui permet de renforcer ces chemins neuronaux par la force de l'entraînement, par l'action, par le faire. Est-ce que du coup, dans ce que tu dis, est-ce qu'il n'y a pas un levier possible à cet endroit-là pour justement pouvoir plus faire, même quand on veut? Je ne sais pas si tu arrives à me suivre.
Dans ce que tu as dit, ça engage beaucoup, 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 beaucoup de choses. On va essayer de
Il nous faut 5 heures.
On va vraiment essayer de les décomposer. Dans cette stratégie, quand deux chemins se présentent à moi, je prends toujours celui que je ne connais pas. Il y a d'abord un premier objectif, comment dire? On va essayer de faire vraiment simple. Un premier objectif de croyance en moi-même. C'est-à-dire que je veux me convaincre que je suis capable de m'adapter quel que soit l'environnement. Donc j'apprends petit à petit à construire une représentation de moi-même, de quelqu'un qui est en capacité à s'adapter quel que soit l'environnement. Rien que le fait de me créer cette représentation de moi-même va déjà modifier les états de tension de départ. Ça, c'est la première chose.
Donc oui, mais là, tu es déjà dans l'acte de vouloir.
Exactement. Exactement. La deuxième chose, c'est que pour pouvoir faire ça, il faut que j'arrive à conscientiser que mon adaptation à un environnement ne dépend pas des facteurs exogènes extérieurs, c'est-à-dire des éléments que je vais trouver dans l'environnement, mais vont bien dépendre de facteurs que je véhicule en moi partout et tout le temps. Admettons, si jamais j'ai besoin de grimper un mur de 3 mètres, si pour pouvoir y arriver, je dépends du fait de trouver ou pas une échelle qui me permettra de le faire, alors je vais être en stress permanent dans les nouveaux environnements. Parce que je vais me dire, mon Dieu, si dans le nouvel environnement, il y a un mur de 3 mètres que je dois franchir, j'espère qu'il y aura une échelle, faute de quoi je ne peux pas le franchir. Et donc, du coup, je suis en stress permanent à me confronter à la nouveauté. Parce que pour pouvoir passer la nouveauté, je vais dépendre de facteurs qui ne dépendent pas de moi. Alors que si j'apprends à monter un mur de 3 mètres, j'en ai rien à faire, en fait. Qu'il y ait un mur de 3 mètres, un mur de 2 mètres, un mur d'un mètre, un mur de... Je sais que je possède en moi les ressources nécessaires pour pouvoir surmonter tous les obstacles, quelle que soit leur nature, indépendamment des ressources qui vont me permettre de le faire. En fait, c'est ce que je m'amuse à appeler l'intériorisation des ressources. Et soyez sûr que, quelle que soit la situation, vous possédez toutes les ressources en vous. Depuis que j'ai 14 ans, aujourd'hui j'en ai 40, j'ai jamais croisé une situation dans laquelle je ne possédais pas toutes les ressources nécessaires pour pouvoir surmonter l'événement. On les a tous, et c'est pas un exploit de ma part, c'est qu'on les a tous. Mais le fait de se confronter en permanence à des environnements qu'on ne connaît pas nous amène inévitablement à venir découvrir ces ressources qu'on a en nous.
Tout à fait.
Et donc du coup, se confronter à une nouveauté n'est plus du tout anxiogène, puisque de toute façon, quel que soit le problème que je vais rencontrer, ou la difficulté que je peux rencontrer, ou à l'inverse, les choses très positives que je vais rencontrer, j'aurai les ressources en moi pour venir les vivre. Et donc du coup, bah tiens, go, t'as qu'une envie, c'est d'y aller, t'as envie de foncer, t'as envie de... Donc si tu veux, il y a d'abord ce travail dit cognitif, c'est un travail de conscientisation, de représentation de soi ou de nos ressources. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, ça amène à notre cerveau à traiter des natures de flux perçus très différents les uns des autres. Et comme on garde une grande, très grande diversité de flux perçus, ça évite une hyperspécialisation de notre cerveau qui a tendance à venir se spécialiser dans les environnements récurrents qu'on rencontre. Et à force de se spécialiser, il perd une capacité neurologique d'adaptation. Et cette hyperexposition à la diversité amène à conserver ce qu'on appelle la plasticité neuronale. C'est la capacité que va avoir notre cerveau à créer des nouvelles voies neuronales, à les garder actives, à pouvoir conserver une pluralité de choix adaptatifs, etc., etc. Et qui là, pour le coup, d'un point de vue neurostructurel, reste pleinement effectif. Si jamais ça a été perdu, si jamais trop tard, la plasticité, on peut venir la retravailler et la redévelopper, quel que soit notre âge.
C'est la raison pour laquelle il y a certaines maladies, d'ailleurs, qui sont déclenchées à cause de ça. C'est que le cerveau, à un moment donné, n'a pas été assez stimulé, il n'a pas créé assez de nouveaux chemins neuronaux, et qui fait qu'à un moment donné, Alzheimer, par exemple, peut être stimulé par ce manque de nouveaux chemins neuronaux.
Complètement. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on a des patients avec des protocoles médicaux, donc on n'est pas là pour se substituer aux protocoles médicaux prescrits par les médecins, mais les médecins nous appellent pour accompagner des patients à ce développement de la neuroplasticité, où une personne a un début de cette pathologie clinique qui est malheureusement dramatique, la maladie d'Alzheimer. Et la maladie d'Alzheimer vient bouffer la gaine de myéline. Donc, au niveau des neurones, il faut imaginer que c'est des câbles électriques, et autour des structures ferreuses ou de cuivre des câbles, eh bien, on a une gaine. La gaine qu'on va trouver sur les câbles électriques, eh bien, c'est la gaine de myéline. Et la maladie va venir s'attaquer à la gaine. Et une fois que la gaine est attaquée, eh bien, que ça arrive au câble, clac, ça finit par le sectionner. Et si tu n'as qu'un seul et unique câble, aussi gros soit-il, quand il est sectionné, il est sectionné. L'information ne passe plus, donc c'est des flux d'informations qui ne sont plus traités, et c'est autant de flux perçus, de tâches cognitives, de comportements, d'actions, etc., qui ne peuvent plus fonctionner. Eh bien, nous, on a un double rôle, c'est à la fois de renforcer ces gaines de myéline, donc le plastique qui entoure le câble, et de démultiplier les câbles. Et en démultipliant les câbles, si jamais il y en a un qui est sectionné, eh bien, il y en aura toujours un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième qui fonctionnera. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui des patients qui ont développé la maladie d'Alzheimer à des stades très 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 évolués, mais dont on ne constate aucun symptôme. Et c'est vraiment dans les tout derniers jours que, par contre, là, effectivement, il y a une dégradation très rapide qui va se faire, mais tout a été retardé et la personne a pu vivre dans un confort bien plus important. Tout simplement parce qu'on démultiplie les câbles. Et il faut réussir à les démultiplier plus vite que la maladie progresse.
On l'a dit tout à l'heure, notre cerveau, il prend environ 35 000 décisions par jour. En fait, la réalité, c'est qu'il est toujours dans sa recherche de, de dopamine, de sérotonine. Je me dis, est-ce que finalement, on n'est pas tous des drogués?
Et si? Et si? Ça fait partie des... En fait, il y a une phrase qui est importante à comprendre, c'est qu'on est des organismes vivants. Donc déjà, on est régi par des contraintes du vivant, doué de la faculté de mouvement. Donc on a cette faculté incroyable de pouvoir se mettre en mouvement dans nos environnements. Ça peut paraître tout bête, hein, mais tu prends un arbre, une plante, une feuille... Walou, hein. C'est des organismes vivants, mais ils sont pas doués de la faculté de mouvement. Mais comme tout organisme vivant, on a la contrainte de devoir trouver des stratégies d'adaptation à des environnements qui, eux, sont en perpétuel changement. Et donc, nos stratégies d'adaptation sont régies par notre capacité à se mettre en mouvement. Mais pour qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait un état de tension. Tu ne pourras jamais créer un mouvement sans un état de tension. Et comment la nature a fait pour créer en nous des états de tension qui nous amènent à se mettre en mouvement, à créer le mouvement en nous? Eh bien, ce sont des mécanismes addictifs ou aversifs. Quand quelque chose est jugé comme étant mauvais pour nous, pour l'accès à la ressource énergétique, la mise en péril la survie, pour faire simple, ou les conditions de reproduction, ça c'est les trois grandes fonctions majeures d'un organisme vivant, hein, accéder à l'énergie parce qu'en tant qu'organisme vivant, on en brûle. En tant qu'organisme vivant, autant essayer d'essayer de rester vivant, mais on sait que malgré tout, il y a une fin, et donc si on veut que le vivant perdure, c'est la reproduction. C'est les trois très très grandes fonctions majeures de notre cerveau. Et ensuite, il y a plein de stratégies secondaires, tertiaires, etc. qui sont développées. À travers ces trois grandes fonctions, lorsqu'on perçoit quelque chose dans notre environnement, notre cerveau doit évaluer si oui ou non c'est bon pour nous, et est-ce que ça va répondre ou pas à ces grandes dynamiques, ou contribuer à ces grandes dynamiques. Quand c'est pas le cas, notre cerveau va créer en nous des états de tension aversifs. On ne supporte pas, comme lorsqu'on se tape le petit doigt de pied sur l'angle de meuble là, sur la table basse là. Généralement on frotte comme des malades là, parce qu'il faut vite que ça s'arrête, parce que c'est aversif et ça déclenche en nous une réponse comportementale adaptative qui donne rarement le meilleur de nous-mêmes. Okay, c'est un état de tension bien particulier. Ça, c'est les états de tension aversifs. Et puis on a les états de tension, quand quelque chose est bon pour nous, ça va créer des états de tension de satisfaction en nous. On appelle ça des états de satisfaction addictifs. Pourquoi addictif? Parce que pour être sûr qu'on ait toujours des états de tension qui nous mettent en mouvement, la nature, par exemple, comme tu l'as dit, a la dopamine, mais on retrouvera aussi l'ocytocine, la sérotonine, les endorphines. Eh bien, si le taux de concentration n'est pas suffisant, ça va nous créer un état de tension qui va nous pousser à aller en chercher. C'est-à-dire que c'est des états de tension qui nous poussent à aller chercher des choses qui sont bonnes pour nous. Eh bien, quand on a un taux de concentration qui n'est pas assez fort pour nous amener à augmenter ce taux, eh bien, c'est une mécanique addictive. Alors généralement, quand on dit aux gens qu'on est tous des drogués, on est tous addicts à quelque chose, les gens sortent les griffes, parce que quand ils parlent des mécanismes addictifs, en réalité, on en parle dans la presse, grand public ou autre, toujours dans le cas des pathologies cliniques, donc dans des cas de dysfonctionnement. Mais en réalité, cette mécanique-là, c'est l'essence même de la vie.
Complètement.
C'est l'essence même de la mise en mouvement, et pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait une mise en mouvement, et c'est l'origine même de la vie. Donc oui, je te confirme, on est tous des drogués, on est tous accros à la dose.
Bah tu vois, je peux pas m'empêcher de penser à TikTok par exemple, qui a complètement compris ce processus décisionnel qui est de nous shooter à toutes ces drogues, ce qui fait que on est addict et on ne sait pas pourquoi, on se rend pas compte, mais on n'arrive pas à décrocher. Pourtant. Tu vois, même moi qui mets... C'est pour ça que d'ailleurs, je l'ai désinstallé de mon téléphone, parce que même si je le sais, je n'arrive pas à décrocher. Tu vois, donc il y a vraiment la dualité entre vouloir et le faire. Donc c'est parce que le shoot de dopamine, de sérotonine est beaucoup trop fort, c'est ce qui fait que du coup, on n'arrive pas à décrocher.
C'est exactement ça. En fait, c'est des environnements qui sont designés pour créer en nous des états de tension, de satisfaction tellement forts que la raison ne peut pas les inhiber. Donc même en voulant, on ne peut pas. Donc la seule chance qu'on a, c'est que lorsqu'on n'est pas pris la pile poil à ce moment-là dans des états de tension, on le verrouille, on le désinstalle pour ne plus recréer cet environnement qui va me créer des états de tension que la raison n'est pas capable de piloter. C'est un peu comme quand... parce que c'est vraiment le momentum, hein, c'est au moment où l'état de tension est trop fort. Ça nous est tous arrivé à un moment donné de s'emporter verbalement avec quelqu'un en disant « Waouh, punaise, c'est pas possible, tu me fais chier, mais t'es qu'un con, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'a fait un con pareil ?» Et tu sais qu'en même temps, ce que t'es en train de dire, oui, tu le penses à ce moment-là, mais tu sais aussi déjà que tu vas le regretter un chouïa plus tard. Oui, mais l'état de tension aversif est tellement fort que ça va amener une réponse adaptative de ce type-là. Ensuite, les états de tension se calment. Ouais, mais enfin, bon, je peut-être allé un peu loin. Quand je disais que t'étais qu'un con ou t'étais qu'une conne, enfin, tu sais, c'est parce que j'étais en colère. Le ploups. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'état de tension qui a guidé l'action et pas la raison. Quand l'état de tension redevient suffisamment bas, déjà, la représentation se construit différemment et la raison reprend le dessus. Parce que la capacité d'inhibition reprend la main dessus. Bon, après, il l'avait bien cherché ou elle l'avait bien cherché. Hein, mais... non, c'est moche.
Ouais, c'est moche. C'est déjà l'heure de nous quitter, ça va trop vite. J'ai bu tes paroles, Guillaume. Vraiment, c'est toujours autant passionnant. Je vois qu'il me reste aussi des restes de cette formation que j'avais fait avec toi il y a maintenant 2-3 ans. Hein, ça date maintenant déjà. Et ça va, j'ai bien retenu la leçon.
Oui, c'est ce que j'ai vu, parce qu'il y a des questions qui étaient... on sentait derrière que effectivement tu avais bien conservé la logique, toute la mécanique, la logique, etc., que tu
oui.
maîtrises bien.
Oui, oui.
Donc je l'ai bien entendu dans tes questions.
Une dernière question avant de nous quitter. Est-ce que tu as une ressource, tu as un livre, un film, un podcast, ce que tu veux, que tu as envie de nous conseiller aujourd'hui, qui viendrait illustrer davantage les propos qu'on a eu ensemble? Est-ce qu'il y a une ressource que tu as envie de nous partager?
Il y en aurait des milliers. Vraiment des milliers. Dans les ressources, au dépourvu comme ça. Je me suis amusé à faire 2 TEDx. Et les TEDx reprennent et rentrent peut-être plus dans le détail justement des états de tension, la mécanique de ces états de tension. Mm-hmm. Donc je peux effectivement inviter les interlocuteurs et interlocutrices à découvrir ces TEDx-là. Ils sont sur les mêmes sujets, les 2 TEDx sont sur les mêmes sujets, mais abordés un peu différemment et qui nous permettent de venir comprendre l'origine de ces états de tension et les conditions de déclenchement de ces états de tension.
Okay.
Je pense que si je devais en retenir une source, voilà, qui peut permettre d'aller un petit peu plus loin, ça peut être effectivement celle-ci.
Eh bien, très bien, je les mettrai dans la barre de description. Comme ça, elles n'auront plus qu'à cliquer dessus et elles pourront visionner tes 2 TEDx.
Bah écoute, ça sera avec grand, grand, grand plaisir. En tout cas, un grand merci à toi de m'avoir accueilli ici. Un grand merci à tous ceux et celles qui nous écoutent. Et j'espère que vous avez passé un moment aussi agréable que j'ai eu le plaisir, en tout cas, d'être avec vous.
Merci beaucoup pour toute cette valeur que tu nous as offert aujourd'hui. Merci pour ton temps. Et je te dis à très bientôt. Merci, Guillaume.
À très bientôt. Merci à toi.
Bye bye. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si le podcast vous a plu, prenez quelques minutes pour le noter 5 étoiles, puis déposer un commentaire, ça m'aide beaucoup. Et à partager votre ressenti sur Instagram en nous taguant, ça nous permettra d'interagir avec vous et à d'autres de découvrir Muffin Game plus facilement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Bisous, bye bye.